bonsoir. Merci de nous avoir rejoints à l'Espace Café. Michel Kahn, bonsoir. Merci d'être là parmi nous. Alors, avant de passer à l'entretien proprement dit, je souhaiterais, si vous le permettez, vous présenter en quelques mots. Donc, vous êtes l'auteur de Shanghai la Juive, qui fut un très grand succès, qui a été réédité à deux reprises. Alors, ce livre relate l'histoire de milliers de Juifs européens qui, fuyant les nazis, trouvaient refuge à Shanghai. Ensuite, il y a eu Cacao, qui raconte l'introduction du chocolat en Europe. Et je me suis laissé dire que vous étiez vous-même grand amateur de chocolat et que vous faites même partie du club des croqueurs de chocolat. Alors ensuite, il y a le pourpre et le jasmin, qui évoque l'histoire de la reine Esther, et Moi, reine de Saba, qui raconte l'histoire de la rencontre entre le roi Salomon et la reine Esther. Et la reine de Saba, par contre. Donc, s'il y a bien une constante dans votre bibliographie, c'est que vos livres sont la plupart du temps historiques et qu'en plus, ils évoquent des faits de l'histoire juive. Alors, le rabbin de Salonique, donc pour lequel vous êtes présente aujourd'hui, ne déroge pas à la règle. Donc, ce rabbin, c'est Zvi Koretz, qui est né en Autriche-Hongrie et à qui on fait appel pour devenir le grand rabbin de la communauté de Salonique. Alors malheureusement, le courant ne passe pas très bien entre lui et cette communauté. Et les choses vont vaille que vaille jusqu'à l'arrivée des Allemands donc, qui occupent Salonique. En 1943, le rabbin devient le président du Judenrat, le conseil des Juifs. Et ce faisant, et malgré lui, il aide l'occupant allemand à organiser la déportation des Juifs. Lui-même meurt en déportation à la toute fin de la guerre. Alors Michel Kahn, donc vos livres, je l'ai dit, sont souvent historiques. Est-ce qu'on peut dire que l'histoire est pour vous un refuge face au monde réel, face au monde d'aujourd'hui ?
Dire que c'est un refuge, je n'y avais jamais pensé, mais vous avez peut-être raison. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que en analysant le passé, on a tous les éléments. On a pu rassembler tous les éléments. Alors que maintenant, on n'a pas la distance par rapport à ce qui se passe. Et justement, vous parliez de ce malheureux rabbin qui a été fortement accusé, puisque après sa mort, on lui a fait un procès post-mortem dans lequel on l'accusait d'avoir trahi sa communauté. Et je me suis aperçue que, justement, les gens qui l'accusaient, ces gens-là n'avaient pas la distance. Et c'est ce qui m'effraie dans l'écriture sur le contemporain, c'est que, justement, on ne sait pas tout.
Alors, quand vous avez écrit Shanghai la Juive, vous évoquiez déjà un fait peu connu du grand public. Il en va de même à nouveau avec l'histoire de ce rabbin de Salonique. Est-ce que c'est une motivation pour l'écriture de révéler des faits méconnus au public ?
Oui, certainement, parce que ce qui se passe aussi bien pour Shanghai la Juive que le rabbin de Salonique ou bien la tragédie de l'émeraude que j'ai écrite qui est une histoire qui parle des pionniers de l'aviation et de l'Indochine. Justement, j'ai découvert ces histoires que j'ai trouvées extraordinaires alors que je n'en avais jamais entendu parler. Et c'est ça qui m'a captivée. Comment se fait-il qu'on n'en ait jamais parlé ? Et j'ai ma curiosité l'emporte, j'ai envie de chercher, je creuse toujours plus profond, ça me prend des années. Et c'est comme ça que je fonctionne.
Alors le rabbin de Salonique, comment vous l'avez-vous, si je puis dire, rencontré pour la première fois ?
Eh bien, c'est une histoire assez étrange que la façon dont justement le rabbin et moi nous nous sommes rencontrés. J'étais un jour à Saint-Malo dans une taverne, vous voyez que ça n'a rien à voir avec le sujet, et j'étais avec un ami qui commence à me parler de la tragédie de la déportation des Juifs de Salonique. Et je n'en savais absolument rien. En deux mots, Il y avait à Salonique 50 000 juifs et 45 000 ont été déportés, ce qui fait 95% de la communauté. C'est une proportion absolument énorme. Et donc, l'ami qui me racontait cette histoire me dit, mais il paraît que, il me raconte des détails, il y en a qui ont été emmenés à Auschwitz dans un train de luxe. Et il me raconte une histoire complètement ahurissante de ces gens débarquant avec leur fourrure, leur beau bagage, tout ça, à Auschwitz. Et alors ça, ça commence à m'interpeller et je me dis, je vais chercher des traces de ce train. Et je n'ai trouvé nulle part des traces de ce train, nulle part. Mais je suis tombée sur le rabbin. Alors, quand je suis tombée sur le rabbin, j'ai tout de suite lu ce qui découlait du procès qui lui a été fait, c'est-à-dire qu'il avait été accusé d'avoir trahi sa communauté en laissant les Allemands, sachant qu'ils allaient les exterminer. Et alors là, mon sang n'a fait qu'un tour parce que je me suis dit, mais un rabbin, c'est un homme de foi, d'amour, de partage, d'enseignement. Comment est-ce qu'un rabbin peut se conduire avec une telle ignominie? Je me serais posé d'ailleurs la même question pour n'importe quel prêtre, pasteur, etc. Et alors là-dessus, je me dis aussi, mais si c'est vrai qu'un rabbin s'est conduit comme ça, eh bien, il faut le dire. Il faut le crier sur les toits parce qu'il ne faut plus que des naïfs de mon espèce se laissent prendre à croire que tous les gens religieux sont des gens bien formidables. Donc, j'ai creusé pour pouvoir, à l'origine, je voulais raconter comment ce rabbin s'était mal conduit. Et petit à petit, une réflexion s'est installée. Je me suis dit que les choses n'étaient pas si simples et j'ai cherché des témoignages et je me suis rendu compte que, justement, comme je le disais tout à l'heure, les gens qui l'avaient jugé ont jugé sans savoir.
Alors, la communauté de Salonique l'engage parce que c'est un homme moderne. Il parle hébreu, il s'habille presque comme un laïc. Mais quelles étaient en fait leurs véritables motivations? Est-ce qu'ils voulaient qu'ils transforment la communauté? Parce que lui est un Ashkenaz, la communauté est séfarade. Ils ont de grandes différences. Qu'est-ce qu'ils pouvaient leur apporter?
Eh bien, ils pouvaient leur apporter la modernité. Parce que à Salonique, il y avait une quarantaine de rabbins, les rachamim, les sages. Mais ils étaient très érudits, mais ils ignoraient tout du profane. Et par exemple, c'était des Grecs, mais qui n'avaient aucune idée de la civilisation hellénique. Il faut dire que Salonique n'était pas grecque depuis longtemps, elle l'était seulement depuis 1912, et avant elle avait appartenu à l'Empire ottoman. Et les notables de Salonique ont décidé de faire une communauté moderne. Et ils ont voulu avoir des contacts avec les hautes autorités grecques. Et là, avec les rachamim, les sages, ça s'est mal passé, puisque celui qui tenait lieu de grand rabbin a commis un lèse-majesté, c'est-à-dire que quand la famille royale est venue en visite à Salonique, le rabbin en question a refusé de tendre la main à la reine de peur qu'elle fût en ses jours impure. Et donc, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et ils se sont dit qu'il fallait trouver un rabbin érudit, mais qui connaisse aussi, qui sache se conduire dans la vie et qui soit le porte-parole de la communauté jusqu'à Athènes.
Alors, bien avant la guerre, déjà, en fait, le rabbin n'a jamais été aimé à Salonique. Et pourquoi, selon vous? Qu'est-ce qu'on lui reprochait? Donc, en dehors, bien sûr, de l'épisode du Judenrat.
Il n'était pas aimé à Salonique. Il ne s'est jamais senti accueilli. Sa femme disait qu'elle a toujours senti qu'elle était considérée comme une étrangère. Et c'est vrai qu'il pensait, comme il a été nommé grand rabbin, qu'il pourrait s'imposer comme guide spirituel, mais il y a eu une méconnaissance de la différence des rites. Et en fait, il ne détenait pas toutes les clés séfarades. Et alors que, justement, la population de Salonique était très accrochée à ses rites et à ses us. Alors, il faut dire aussi, c'est le soleil et la glace. Lui, c'était un homme, donc il était né à Rzeszów, qui est une ville maintenant polonaise, qui était à l'époque dans l'Empire austro-hongrois. Sa langue maternelle était l'allemand. Il avait fait ses études à Vienne, à Berlin. Si on lui avait demandé ce qu'il avait envie de faire de sa vie, il aurait choisi de s'installer à Berlin, parce que pour lui, c'était la plus belle ville du monde. C'était la capitale du judaïsme européen. C'était la patrie, l'Allemagne était à l'époque, il faut bien avoir cela en tête, la patrie des arts et de la culture. Et il était imprégné de tout ça. Il lisait régulièrement les écrivains, les philosophes allemands. Il écoutait Beethoven. C'était un homme très épris de culture germanique. Et pour lesquels, ça a une grande importance pour la suite. Pour lui, les Allemands étaient des gens d'honneur en qui on pouvait avoir une confiance totale. Et c'est ça qu'il a perdu après. Et je ne sais plus ce que j'avais commencé à dire.
Mais on parlait en fait des différences de culture.
Oui, des différences de culture. Donc, c'était un homme de l'Est, un homme un peu froid, certainement, un peu rigide, certainement, autoritaire aussi. Et il n'a pas été accepté. Si vous voulez, on en arrive à ce qui me paraît être la question essentielle du roman. Au-delà de l'histoire effroyable de la tragédie de Salonique et de ce malheureux rabbin, c'est quel regard portons-nous sur les autres ? Comment nous conduisons-nous avec nos proches ? Comment nous conduisons-nous avec les gens de notre famille, avec nos collègues, avec nos voisins ? Est-ce que nous sommes prompts à les juger ou au contraire, est-ce que nous leur accordons le bénéfice du doute ? Est-ce que nous les aimons ? Pour moi, c'est ça la grande question et je crois que j'aimerais que ce livre amène chacun à s'interroger sur soi-même.
Merci. Alors, Salonique, où il est accueilli, si on peut dire, donc n'est pas n'importe quelle ville juive, puisqu'on l'a appelée à un moment de l'histoire la Jérusalem des Balkans. Mais qu'en est-il au moment où il arrive ? Donc on sait qu'il y a eu à une époque plus de 190 000 juifs à Salonique. 90 000, pardon. Mais qu'en est-il lorsqu'il y arrive en 1933 ?
Alors, je vais reprendre les chiffres. Il y avait à Salonique 170 000 habitants en tout et 90 000 juifs. Donc, c'est une ville à majorité juive. Et ensuite, à la faveur de divers événements comme un incendie gigantesque, en 1917, la communauté juive s'est réduite et en 1933, donc quand le rabbin arrive, elle se compose encore de 50 000 juifs, ce qui est une très belle communauté.
Alors, une scène dans le livre m'a beaucoup frappée. En fait, nous sommes en 1941, donc les Allemands occupent Salonique. Et la femme du rabbin a une conversation à la sortie de l'école avec la femme d'un notable de Salonique qui lui dit « Oh, de toute façon, nous, Juifs de Salonique, nous n'avons rien à craindre. Les exactions qui ont commencé ne concernent que les Juifs d'Europe de l'Est. De toute façon, nous, nous sommes hors de danger. » Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle attitude en pleine guerre ?
Eh bien, cette femme a eu une expression qui m'est restée dans l'oreille. Elle a dit « Nous, les Juifs latins, nous sommes une race à part. Nous n'avons rien à voir avec les Juifs de l'Est. » Et en fait, c'est vrai que par rapport à ce qui se passait en Europe, les Juifs de Salonique ont été longtemps protégés puisqu'ils n'ont été véritablement inquiétés. Les lois de Nuremberg ne leur ont été appliquées qu'en 1943. Mais la raison n'était pas du tout cette supériorité dont se croyait pourvue cette dame. La raison était que il y avait à Salonique des Juifs italiens, que Mussolini et Hitler étaient alliés et que Mussolini avait décidé de protéger ses sujets, quelle que fût leur religion. Donc c'était pour ne pas heurter Mussolini qu'on avait laissé en paix les Juifs de Salonique pour ne pas risquer de toucher aux Italiens. Et un jour, c'est tombé. Mais longtemps, les Juifs de Salonique ont été persuadés que ce qui arrivait en Europe, dans le reste de l'Europe, ne pouvait pas les concerner. Et d'ailleurs, il y a des lettres, par exemple, à l'ambassade de France où ils font état de cette différence.
Alors, donc 2 ans plus tard, en 1943, le rabbin devient président du Judenrat et ce faisant, il aide les Allemands à organiser la déportation des Juifs de Salonique. Alors, est-ce qu'il l'a fait par naïveté ? Est-ce qu'il s'est laissé faire ? Quelles étaient véritablement ses motivations à ce moment-là ?
Eh bien, je crois qu'on ne lui a pas laissé le choix parce que, comme il était l'un des rares à parler allemand et qu'en plus il était le chef spirituel de la communauté, il était l'interlocuteur tout désigné de la Gestapo et on ne lui a pas laissé le choix. En plus, il avait cette confiance totale dans les Allemands, comme je l'expliquais tout à l'heure, pour lui c'était des gens d'honneur. Et en plus, il avait été emprisonné en 1941, pendant plusieurs mois, à Vienne, et il était, donc par la Gestapo de Vienne, et il était sorti de prison, ce qui a été assez rare. Mais donc, il n'était pas aussi effrayé qu'il aurait dû. Il était allé en prison, il en était sorti, il était vivant. Et il ne se doutait vraiment de rien. Il faut ajouter à cela qu'il avait une foi absolument naïve en Dieu. C'est qu'il était persuadé que Dieu sauverait son peuple. Et c'est tout un ensemble qui a fait qu'il est tombé dans le piège de façon magistrale.
Alors, vous retracez son itinéraire, donc de son arrivée à Salonique jusqu'à sa mort. Je me demandais de quelle façon vous avez travaillé, parce que vous citez une importante bibliographie à la fin de l'ouvrage, mais est-ce qu'il restait, par exemple, des archives de cette époque à Salonique, donc en dehors de ces livres ?
Eh bien, il y a un livre qui représente les archives qui est In Memoriam. Et ce livre a été écrit tout de suite après la guerre, sans la distance nécessaire. Et donc, dans ce livre, le rabbin Koretz est insulté. Comme j'ai vraiment trouvé ça difficile à supporter. Ce livre a été écrit par un rabbin. Et Koretz est insulté dans ce livre. Et là aussi, j'ai eu du mal. Mais j'ai eu accès au témoignage qu'a déposé sa femme à Yad Vashem, je crois, en 1976. Donc, il y a 2 procureurs et on ne la laisse pas dire n'importe quoi. On la pousse dans ses retranchements jusqu'à ce que elle est dit ce qu'elle a à dire. Elle n'invente pas, elle ne fabule pas. Donc j'ai croisé les faits historiques avec le témoignage de cette femme qui est assez consistant, d'une part, et d'autre part, le journal qu'a tenu leur fils à Bergen-Belsen. Pour vous montrer une toute petite chose, les gens disaient « Oui, oui, le rabbin a été déporté à Bergen-Belsen, mais il n'a pas travaillé là-bas. » Eh bien, dans le journal du fils, on peut lire que le rabbin, il est de corvée de bois et qui tient à peine debout. Et... Alors, les gens racontaient n'importe quoi.
Alors, je sais que vous avez rencontré son fils également, mais à part lui, est-ce qu'il reste encore des témoins directs de cet épisode de la guerre ?
Il restait deux personnes qui ont écrit des livres à ce sujet et qui l'ont violemment accusé. L'un est le violoniste Jacques Strumza, qui s'est éteint la semaine dernière. Et l'autre est Jacques Andely, qui vit toujours en Israël. Et je n'ai pas tenu à les rencontrer parce qu'ils restaient sur leur idée que le rabbin les avait trahis.
Oui, alors justement, les descendants des familles juives de Salonique, quel regard portent-ils sur Tzvi Koretz aujourd'hui ? Et est-ce que vous avez reçu des réactions suite à votre livre, à l'apparition du livre ?
Oui, j'ai eu des réactions. Il y en a une qui me paraît vraiment symptomatique. C'est quelqu'un qui a entendu dire que j'ai écrit ce livre. Enfin, d'ailleurs, deux personnes. Une qui l'a lu et l'autre qui ne l'a même pas lu et qui m'envoie des lettres vraiment injurieuses. Alors que c'est leur refus de regarder ce qui s'est passé. Je comprends très bien leur douleur. Parce qu'il faut dire qu'il y a 1800 personnes seulement qui sont revenues des camps. Et donc, ils font partie des descendants de ceux-là. Cette douleur a dû être vraiment terrible parce qu'ils ont survécu par miracle au carnage. Ils ont assisté à la mort atroce de leurs proches. Ils sont revenus en Grèce pour s'apercevoir que les Grecs s'étaient emparés de ce qui leur appartenait. Donc c'est une succession d'épreuves et d'injustices qui comprend que ces gens soient aigris et très sensibles sur ce sujet. Mais à l'époque, on ne savait pas tout. Ce qui leur a été transmis, c'était par des gens qui ignoraient ce qui s'était passé vraiment. Et ce qui me navre, c'est qu'ils veulent rester sur cette position sans accepter de la reconsidérer. Donc j'accueille très calmement les lettres de ce genre et j'espère qu'un jour, quand même, ils nuanceront leur opinion.
Alors, quand on écrit un tel portrait, est-ce qu'il y a une part d'imaginaire ? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas vraies ou peut-être pas vraisemblables dans l'histoire ?
Tout est vraisemblable. Il y a une seule chose qui n'est pas documentée. C'est-à-dire qu'il y a une scène, justement, je racontais tout à l'heure que le rabbin avait été en prison à Vienne, emprisonné par la Gestapo, et il est revenu à Salonique. Il a toujours observé un silence complet sur ce qui s'est passé à Vienne. Il n'a pas raconté exactement les choses. Et donc, j'ai dû réfléchir à ce qui avait pu plausiblement, logiquement, se passer. Et je suis arrivée à la conclusion d'une entrevue entre Aloïs Brunner et lui. C'est la seule chose que j'ai inventée, qui n'est pas documentée. Je l'ai signalée parce que tout le reste est vrai. Alors, là où j'ai peut-être inventé, c'est dans ce qui se passait dans son esprit. C'est pour ça que mon livre s'appelle « Roman », alors qu'il est très documenté, très historique. Mais parce que, justement, je me suis interrogée sur ce qui se passait dans sa tête et dans son cœur.
Alors, une dernière question pour terminer cet entretien. Vous avez parlé de la leçon que l'histoire de ce rabbin peut nous apporter, Est-ce que vous avez voulu le réhabiliter? Est-ce que c'était ça, finalement, le but de l'écriture de ce livre?
Le réhabiliter, oui, par rapport au procès qui lui a été fait, donc où on concluait qu'il a trahi sa communauté en sachant que les gens allaient à l'extermination. Ça, de mon avis, c'est absolument impossible et, si vous voulez, j'ai instruit un procès à décharge. Mais pour le reste, je ne peux pas le réhabiliter puisqu'il a fait des erreurs. Il a été autoritaire, il a mal compris, il a pas toujours pensé à tout. Seulement, là encore une fois la question, mais chacun de nous, qu'aurions-nous fait à sa place? Et je crois vraiment que son histoire nous oblige à une grande modestie. Comment est-ce qu'on se serait conduit? Moi, je ne sais pas. Je vais vous donner un exemple. En France, il y a eu, on le sait, 5% de résistants, 5% de collaborateurs et tout le reste de la population a été attentiste. Quand je réfléchis à ce qui s'est passé en France, je me dis, j'espère que j'aurais été du côté des héros, mais j'en sais rien. 5% c'est très peu, je n'en sais rien. Donc c'est la même chose avec le rabbin, qu'aurions-nous fait à sa place ?